Note sur le livre du Deutéronome par C.H. McIntosh, édition 1963. Chapitre 3. Lecture de l'étude. Et nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bazan. Et Og, le roi de Bazan, sortit à notre rencontre, lui et tout son peuple, à Édréhi, pour livrer bataille. Et l'Éternel me dit, ne le crains pas, car je l'ai livré en ta main, lui et tout son peuple et son pays. Et tu lui feras comme tu as fait à Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel notre Dieu livra aussi en notre main Og, le roi de Bazan, et tout son peuple. Et nous le battîmes jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé. Et nous prîmes toutes ces villes en ce temps-là. Il n'y eut point de ville que nous ne leur prissions, 60 villes, toute la région d'Argob, le royaume d'Og en Bazan. Toutes ces villes-là étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres, outre les villes ouvertes en fort grand nombre, et nous les détruisîmes entièrement, comme nous avions fait à Sion, roi de Hesbon, détruisant toutes les villes, hommes, femmes et enfants. Et nous pillâmes pour nous toutes les bêtes et le butin des villes, versets 1 à 7. Les ordres divins concernant Og, roi de Bazan, étaient précisément les mêmes que ceux donnés au chapitre précédent au sujet de Sion, roi des Amoréens. Pour comprendre ces ordres, nous devons les considérer à la lumière du gouvernement de Dieu, sujet peu compris, quoique d'une haute importance pratique. Il faut savoir distinguer la grâce du gouvernement. Lorsque nous contemplons Dieu en gouvernement, nous le voyons déployant sa puissance en justice, punissant les méchants, se vengeant de ses ennemis, renversant les empires et les trônes, détruisant les cités, balayant les nations, les tribus et les peuples. Nous le voyons commander à son peuple de passer au fil de l'épée les hommes, les femmes et les enfants, de mettre le feu à leur maison et de réduire en cendres leur ville. Nous l'entendons aussi adresser au prophète Ézéchiel ces remarquables paroles. « Fils d'homme, Nebuchadrezzar, roi de Babylone, a fait travailler son armée à un grand travail contre Tyr. Toute tête en est devenue chauve et toute épaule en a été écorchée. Et il n'a eu de Tyr aucun salaire, ni pour lui, ni pour son armée, pour le travail qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, je donne à Nebuchadrezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte, et il en enlèvera la multitude, il en emportera le butin et en fera le pillage. Et ce sera le salaire de son armée. En récompense de son travail contre Tyr, je lui ai donné le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 29, versets 18 à 20. Ce passage remarquable place devant nous un sujet qui se retrouve dans tout l'Ancien Testament et qui exige toute notre attention. Dans les 5 livres de Moïse, les livres historiques, les psaumes et les prophètes, nous voyons l'Esprit nous donner les détails les plus précis sur les actes de Dieu en gouvernement. Nous avons le déluge au jour de Noé, où toute la terre, à l'exception de 8 personnes, fut détruite par un acte du gouvernement divin. Les hommes, les femmes, les enfants, les quadrupèdes, les oiseaux et les reptiles furent tous entraînés et engloutis sous les flots du juste jugement de Dieu. Puis, au jour de Lot, nous voyons les villes de la plaine avec tous leurs habitants, hommes, femmes et enfants, détruites en quelques heures par la main du Tout-Puissant et ensevelies sous les eaux de la mer morte. Ces villes coupables, Sodome et Gomorre, et les villes d'alentour, s'étant abandonnées à la fornication de la même manière que cela, et étant allées après une autre chair, sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude 7. Ensuite, les pages inspirées nous montrent les 7 nations de Canaan, hommes, femmes et enfants livrés entre les mains d'Israël pour être exterminés sans miséricorde et sans qu'une seule personne échappât. Le temps nous manquerait pour la simple indication de tous les passages des Écritures qui mettent devant nos yeux les actes solennels du gouvernement divin. Nous les retrouvons de la Genèse à l'Apocalypse, du déluge à la destruction finale du monde actuel. Sommes-nous capables de comprendre ces voies de Dieu en gouvernement? Avons-nous le droit de les juger? Sommes-nous à même de sonder les profonds et terribles mystères de la Providence? Pouvons-nous, devons-nous expliquer pourquoi des enfants innocents sont enveloppés dans le jugement de leurs parents coupables? L'incrédulité impie peut se moquer de ces choses, la sentimentalité peut s'y achoper, mais le vrai croyant, le lecteur respectueux de la Sainte Écriture, résoudra toutes ces questions par cette autre question si simple et si sûre. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Genèse 18, verset 25. C'est la seule manière de répondre à de telles questions. Si nous admettons que l'homme peut juger les voies de Dieu, qu'il peut se permettre de décider de ce qui est digne de Dieu et de ce qui ne l'est pas, alors vraiment nous avons perdu le sentiment de ce qu'est Dieu. Or c'est précisément là le but de Satan. Pour éloigner nos cœurs de Dieu, il pousse les hommes à raisonner, à questionner et à spéculer sur des choses qui sont aussi au-dessus de leur portée que les cieux sont au-dessus de la terre. Pouvons-nous comprendre Dieu? Si nous le pouvions, nous serions nous-mêmes Dieu. Il est absurde et impie tout à la fois que de pauvres mortels osent discuter les conseils, les actes et les voies du Tout-Puissant Créateur, du sage gouverneur de l'univers. Tôt ou tard, ils reconnaîtront leur fatale erreur. Il serait bon que tous les sophistes prissent garde à cette grave question de l'apôtre, mais plutôt, toi, ô homme, qui es-tu qui contestes contre Dieu? La chose formée, dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? Romains 9, versets 20-21. Telle est la méthode divine de répondre à tous les comment et pourquoi du raisonnement incrédule. Si le potier a pouvoir sur le morceau d'argile qu'il tient dans sa main, fait que personne ne songerait à nier, combien plus le Créateur de toutes choses a-t-il pouvoir sur les créatures que sa main a formées? Les hommes peuvent spéculer indéfiniment sur les raisons pour lesquelles Dieu a permis au péché d'entrer dans le monde et au serpent de tenter Ève au lieu de le détruire lui et ses anges, ou de préserver Ève de manger le fruit défendu, etc. En un mot, les pourquoi et les comment sont sans fin, mais la réponse est une. Qui es-tu, ô homme, qui conteste contre Dieu? Quelle monstruosité! Un pauvre ver de terre ose porter un jugement sur les conseils et sur les voies de l'Éternel Dieu. Quelle présomptueuse folie! Une créature dont l'intelligence est aveuglée par le péché et par conséquent totalement incapable de juger sainement les choses divines, prétend savoir comment Dieu aurait dû agir dans tel ou tel cas. Il est à craindre que des milliers qui raisonnent maintenant avec une habileté apparente contre la vérité de Dieu ne reconnaissent leur fatale erreur lorsqu'il sera trop tard pour la réparer. Quant à ceux qui, loin de faire cause commune avec les incrédules, sont néanmoins tourmentés de doutes et de craintes au sujet de quelques-unes des voies de Dieu en gouvernement, et sur la solennelle question des peines éternelles, nous leur recommandons la lecture et l'étude attentive du psaume 131. Éternel, mon cœur n'est pas hautain, mes yeux ne s'élèvent pas, et je n'ai pas marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère? Mon âme est en moi comme l'enfant sevré. Une note en bas de page. Nous nous permettons ici quelques remarques sur le sujet si solennel des peines éternelles, vu que tant de chrétiens, en tout lieu, ne sont pas au clair sur ce sujet. Il y a, nous le croyons, trois considérations qui, dûment pesées, fixeront le chrétien quant à cette doctrine. Premièrement, on trouve dans le Nouveau Testament 70 passages avec le mot « éternel ». Ce mot est appliqué à la vie que les croyants possèdent, aux demeures dans lesquelles ils seront reçus, à la gloire dont ils jouiront. Il s'applique à Dieu. Romains 16, verset 26.
Selon le commandement du Dieu éternel pour l'obéissance de la foi.
Il s'applique au salut dont le Seigneur Jésus est l'auteur, à la rédemption qu'il a obtenue pour nous et à l'Esprit. Parmi ces 70 passages que le lecteur peut vérifier au moyen d'une concordance grecque, il y en a 7 où ce même mot est appliqué au châtiment des méchants, au jugement qui les atteindront, au feu qui les consumera. Or, il s'agit de savoir d'après quel principe ou quelle autorité l'on peut dire que dans ces 7 passages-là, le mot « aionios » ne signifie pas « éternel », mais bien dans les 63 autres. Cette assertion est sans fondement aucun et indigne de l'attention d'un esprit sérieux. Nous admettons que si le Saint-Esprit eût jugé convenable d'employer un autre mot pour parler du jugement des méchants, la raison demanderait que nous prissions ce fait en considération. Mais non, il emploie le même mot invariablement, de sorte que si nous nions les peines éternelles, nous devons nier la vie éternelle, la gloire éternelle, un esprit d'éternel, un Dieu éternel, en un mot, tout ce qui est éternel. Si le châtiment n'est pas éternel, rien ne sera éternel selon cet argument. Toucher à cette pierre de voûte de la révélation divine, c'est faire crouler le tout. C'est justement ce que Satan cherche à faire. Nous sommes convaincus que nier la vérité des peines éternelles, c'est faire le premier pas sur la pente rapide qui conduit au scepticisme universel. Deuxièmement, notre seconde considération est dérivée de la grande vérité de l'immortalité de l'âme. Nous lisons au chapitre second de la Genèse que l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Verset 7. Ce passage fut-il le seul, c'est sur lui, comme sur un rocher inébranlable, que nous basons la grande vérité de l'immortalité de l'âme humaine. La chute de l'homme ne changea rien à cela. Innocente ou coupable, convertie ou non convertie, l'âme doit vivre à toujours. La question solennelle est celle-ci, où doit-elle vivre? Dieu ne peut tolérer le péché en sa présence, il a les yeux trop purs pour voir le mal, Habacuc 1, verset 13. Par conséquent, si un homme meurt dans ses péchés, sans s'être repenti, sans avoir été lavé et pardonné, il ne peut venir là où Dieu se trouve. Ce serait même le dernier endroit où il désirerait aller. Il ne reste rien pour lui qu'une éternité sans fin, dans les temps ardents de feu et de soufre. Troisièmement, enfin nous croyons que la doctrine des peines éternelles est liée étroitement au caractère infini de la rédemption. Si rien moins qu'un sacrifice infini ne pouvait nous délivrer des conséquences du péché, ces conséquences doivent être éternelles. Cette considération n'aura peut-être pas grand poids auprès de certaines personnes, mais, pour nous, la force en est irrésistible. Nous devons mesurer le péché et ses conséquences de la même manière que l'amour divin et ses résultats, non à la mesure des sentiments humains ou de la raison humaine, mais uniquement à celle de la croix de Christ. Reprise de l'étude. Lorsque le cœur a savouré en quelque mesure ces touchantes expressions, il peut retirer un vrai profit des paroles de l'apôtre en 2 Corinthiens 10, verset 4, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Les philosophes et les libres penseurs souriraient de mépris, sans doute, à l'idée de traiter aussi simplement une question aussi grave. Mais cela importe peu au jugement du disciple de Christ. Le même apôtre inspiré dispose en fort peu de mots de toute la sagesse et de toute la science de ce monde. Il dit « Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Car il est écrit « Celui qui prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages qui sont vains. » 1 Corinthiens 3, versets 18 à 20. Et encore, il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Car, puisque dans la sagesse de Dieu, le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient. 1 Corinthiens 1, verset 19 à 21. Il faut donc que l'homme reconnaisse qu'il n'est qu'un fou, et que toute la sagesse du monde est folie. Vérité humiliante, mais salutaire. Humiliante, parce qu'elle met l'homme à sa vraie place. Salutaire, précieuse même, parce qu'elle met en scène la sagesse de Dieu. On parle beaucoup de nos jours de science, de philosophie et d'érudition. Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Saisissons-nous bien le sens de ces mots? Il est à craindre qu'il ne soit que peu compris. Il ne manque pas d'hommes qui voudraient nous persuader que la science a de beaucoup dépassé la Bible. Malheur à cette science et à ceux qui l'écoutent. Si elle est allée plus loin que la Bible, où est-elle allée? Du côté de Dieu, de Christ, du ciel, de la sainteté, de la paix, ou dans une direction tout à fait opposée? Et où tout cela finira-t-il? Note en bas de page, il faut distinguer entre la véritable science et la science faussement ainsi nommée. En outre, nous devons faire la différence entre les faits de la science et les conclusions des savants. Les faits sont ce que Dieu a fait et fait encore. Mais lorsque les hommes se mettent à tirer leurs conclusions de ces faits, ils commettent les plus graves erreurs. Toutefois, c'est un soulagement pour le cœur de penser qu'il y a un grand nombre de savants qui donnent à Dieu sa vraie place et qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en sincérité. Reprise de l'étude. Le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu. Qu'est-ce que la philosophie de la Grèce faisait pour ses disciples? Elle en faisait d'ignorants adorateurs d'un Dieu inconnu. L'inscription même qui était sur leur autel proclamait à tout l'univers leur ignorance et leur honte. Revenons à notre chapitre. Depuis le verset 7 à 20, Moïse rappelle aux enfants d'Israël l'histoire de leur conquête sur les deux rois des Amoréens, et les faits concernant l'héritage des deux tribus ennemies en deçà du Jourdain. À cet égard, il est intéressant de remarquer qu'il ne dit nullement si ces tribus eurent tort ou raison en choisissant leur possession en dehors du pays de la promesse. D'après le récit qui en est fait ici, on ne peut même pas savoir si les deux tribus ennemies exprimèrent un désir dans cette affaire. Nouvelle preuve que notre livre n'est pas une répétition des précédents. Voici ces paroles. Et nous prîmes possession de ce pays-là, en ce même temps, depuis Aroer qui est sur le torrent de l'Arnon, la moitié de la montagne de Galaad et ses villes, je l'ai donné aux Rubénites et aux Gadites. Et le reste de Galaad et tout Basan, le royaume d'Og, je le donnai à la demi-tribu de Manassé. Et je donnai Galaad à Makir, et aux Rubénites et aux Gadites je donnai, depuis Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, le milieu du torrent et ce qui y confine, et jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des fils d'Ammon. Et, en ce temps-là, je vous commandai disant, l'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays pour le posséder. Vous passerez équipés devant vos frères, les fils d'Israël, vous tous, les hommes valides. Seulement, vos femmes et vos enfants et vos troupeaux, je sais que vos troupeaux sont nombreux, demeureront dans vos villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et qu'eux aussi possèdent le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne au-delà du Jourdain. Alors, vous retournerez chacun dans sa possession que je vous ai donnée, versets 12 à 20. Dans notre étude du livre des Nombres, nous nous sommes arrêtés sur certains faits en rapport avec l'établissement des deux tribus et demie, prouvant qu'elles n'étaient pas à la hauteur de la pensée de Dieu en choisissant leur héritage en deçà du Jourdain. Mais, dans le passage que nous venons de citer, il n'est pas fait allusion à ce côté de la question, parce que le but de Moïse est de placer devant la congrégation l'excessive bonté, la sollicitude et la fidélité de Dieu en leur accordant de si éclatantes victoires sur les Amoréens et en les mettant en possession de belles contrées qui leur convenaient si bien. Par là, il posait la base des droits qu'avait l'Éternel à leur obéissance, et nous pouvons sans peine apprécier la beauté morale du fait que, dans ce résumé, la question de savoir si les tribus de Ruben et de Gad et la demi-tribu de Manassé eurent tort dans leur choix est mise de côté. Grâce à Dieu, sa parole n'a pas besoin d'apologistes humains. Elle parle pour elle-même et porte avec elle ses preuves, de sorte que nous pouvons dire d'elle ce que l'apôtre disait de son évangile, que, s'il est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendît pas pour eux, de Corinthiens 4, versets 3 à 4. Nous sommes toujours plus convaincus que la meilleure manière de répondre aux attaques des incrédules contre la Bible est d'avoir nous-mêmes une foi plus entière en son autorité et en sa puissance divine, et de nous en servir comme étant parfaitement assurés de sa vérité et de sa valeur. Arrêtons-nous maintenant quelque peu sur les derniers versets de notre chapitre. Et je commandai à Josué en ce temps-là, disant, « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à ces deux rois. L'Éternel fera ainsi à tous les royaumes où tu vas passer. Ne les craignez pas, car l'Éternel votre Dieu est celui qui combat pour vous. » Versets 21 et 22. Le souvenir des dispensations du Seigneur envers nous dans le passé devrait fortifier notre confiance pour l'avenir. Celui qui avait accordé à son peuple une si éclatante victoire sur les Amoréens, qui avait détruit un ennemi aussi formidable que Og, roi de Bazan, qui avait mis entre leurs mains tout le pays des géants, que ne pouvait-il faire pour eux? Il était peu probable qu'ils rencontrassent au pays de Canaan un ennemi plus redoutable que cet homme, dont le lit de fer était de si énorme dimension que Moïse en fait la remarque, verset 11. Mais qu'était-il en la présence de son Créateur? Les géants et les nains sont égaux devant lui. Le grand point est d'avoir Dieu lui-même devant nos yeux. Alors les difficultés disparaissent. C'est là le vrai secret de la paix et du progrès. Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait. Or ce qu'il a fait, il le fera encore. Il a délivré, il délivre et il délivrera. Le passé, le présent et l'avenir sont tous marqués par des délivrances divines. Lecteur, es-tu dans les difficultés? T'attends-tu le cœur tremblant à quelque terrible malheur? Es-tu peut-être comme l'apôtre Paul en Asie, excessivement chargé, au-delà de notre force, de sorte que nous avons désespéré même de vivre, de Corinthiens 1, verset 8. S'il en est ainsi, accepte une parole d'encouragement. Ne crains point, crois seulement. Il ne fait jamais défaut au cœur qui se confie en lui. Fais usage des ressources qui sont en lui pour toi. Place-toi avec tes craintes, tes anxiétés, ta famille entre ses mains. En un mot, remets-lui tout. À quoi sert de mettre vos difficultés entre ses mains si l'instant d'après vous les reprenez dans les vôtres? C'est ce que nous faisons souvent. Quand nous sommes dans une épreuve quelconque, nous allons à Dieu par la prière. Nous jetons sur lui notre fardeau et paraissons soulagés. Mais hélas, pas plus tôt avons-nous fini de prier que nous recommençons à voir les difficultés, à mesurer l'épreuve, à nous arrêter à toutes les circonstances pénibles, jusqu'à ce que tout soit de nouveau confus à nos yeux. Cela déshonore Dieu et nous laisse naturellement malheureuses et non soulagées. Dieu veut que nos cœurs soient aussi libres de soucis que nos consciences de péché. Il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et qu'arrivera-t-il alors? La paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Philippiens 4, versets 6 et 7. De cette manière, Moïse cherchait à encourager son compagnon et son successeur, Josué, dans toute l'œuvre qu'il plaçait devant lui. De même aussi, l'apôtre Paul encourageait son cher fils et frère Timothée à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, à s'en remettre en toute assurance à l'autorité, à l'enseignement, à la direction des saintes Écritures, puis, armé et équipé de la sorte, à se mettre à l'œuvre à laquelle il était appelé. De même aussi, l'écrivain et le lecteur de ces lignes peuvent s'encourager mutuellement dans nos jours de difficultés croissantes, à s'attacher avec une foi simple à cette parole qui subsiste à toujours. Les versets qui terminent notre chapitre nous racontent un épisode touchant entre Moïse et son Seigneur. Le récit que nous en trouvons ici est en accord parfait avec le caractère du livre. Et, en ce temps-là, je suppliais l'Éternel disant, « Seigneur Éternel, tu as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta main forte, car quel est le Dieu, dans les cieux et sur la terre, qui fasse des œuvres comme tes œuvres et selon ta force ? Que je passe, je te prie, et que je voie ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban. Et l'Éternel fut irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. Et l'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, et élève tes yeux vers l'Occident, et vers le Nord, et vers le Midi, et vers le Levant, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Mais commande à Josué, et fortifie-le, et affermis-le, car lui passera devant ce peuple, et lui les mettra en possession du pays que tu verras. » Versets 23 à 28. Il est bien émouvant d'entendre ici cet éminent serviteur de Dieu faire une requête qui ne pouvait lui être accordée. Il désirait voir ce bon pays au-delà du Jourdain. La portion choisie par les deux tribus ennemies ne pouvait satisfaire son cœur. Il souhaitait poser son pied sur l'héritage même d'Israël, mais cela ne devait pas être. Il avait parlé légèrement de ses lèvres en Mériba, et, par une dispensation solennelle et irrévocable du gouvernement divin, il lui fut interdit de traverser le Jourdain. Ce fidèle serviteur de Dieu répète tout cela au peuple. Il ne leur cache pas le fait que l'Éternel avait refusé de lui accorder sa requête. Il est vrai qu'il leur rappelle que c'était à cause d'eux. Il fallait, moralement, qu'ils l'entendissent. Mais il leur dit, sans la moindre réserve, que l'Éternel était fort irrité contre lui, refusait de l'écouter et de lui permettre de traverser le Jourdain, et lui ordonnait même de résigner sa charge et de nommer son successeur. Rien n'est plus édifiant que d'entendre cela de la bouche de Moïse lui-même, et une précieuse leçon pour nous. Nous trouvons souvent très difficile d'avouer que nous avons fait ou dit quelque chose de mal, et de reconnaître devant nos frères que, dans un cas donné, nous n'avons pas compris la volonté du Seigneur. Nous sommes soucieux de notre réputation, susceptibles et obstinés. Et cependant, avec une étrange inconsistance, nous admettons, ou paraissons admettre, en termes généraux, que nous sommes de pauvres créatures faibles et faillibles, et que, laissés à nous-mêmes, il n'y aurait rien de mauvais que nous ne puissions dire ou faire. Il est réellement bien différent de faire une confession générale, quelque humble qu'elle soit, ou de reconnaître franchement que, dans telle ou telle circonstance, nous nous sommes grandement trompés. C'est là ce que très peu de personnes savent faire. En général, on ne veut pas admettre qu'on a eu tort. Moïse, malgré sa haute position de chef du peuple, dont la verge avait fait trembler le pays d'Égypte, n'eut pas honte de confesser sa faute devant toute l'assemblée de ses frères, de reconnaître qu'il avait dit ce qu'il n'aurait pas dû dire, et qu'il avait désiré une chose que l'Éternel ne pouvait pas lui accorder. Cela rabaisse-t-il Moïse dans notre estime? Bien au contraire. Il est aussi touchant qu'édifiant d'entendre sa confession, de voir avec quelle humilité il courbe sa tête sous les dispensations de Dieu en gouvernement, d'admirer l'absence totale d'égoïsme dans sa conduite envers celui qui devait lui succéder dans sa charge éminente. Il n'y a pas trace de jalousie, d'envie, ni d'orgueil froissé. Dans son abnégation, Moïse descend de sa position élevée, jette son manteau sur les épaules de son successeur et l'encourage à remplir avec une sainte fidélité les devoirs de cet office que lui-même devait résigner. Moïse s'humilia sous la puissante main de Dieu. Il accepta la discipline qui lui fut imposée par le gouvernement divin et ne prononça pas un murmure lorsque sa requête lui fut refusée. Il se soumit à tout. C'est pourquoi il fut élevé au temps convenable. Luc 14, verset 11.
Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
Si le gouvernement de Dieu l'empêcha d'entrer en Canaan, la grâce le conduisit au sommet du Pisga, d'où, dans la communion de son Seigneur, il lui fut permis de voir le bon pays dans toute son étendue, de le voir non pas comme hérité par Israël, mais comme donné de Dieu. Le lecteur fera bien d'étudier sérieusement le sujet de la grâce et du gouvernement. Ce thème important et pratique, qui revient constamment dans les Écritures, est peu compris parmi nous. Il peut nous sembler étrange qu'un homme aussi aimé que l'était Moïse n'ait point obtenu la permission d'entrer dans la terre promise. La raison n'en était pas seulement que Moïse, dans sa capacité officielle, et comme représentant du système légal, ne pouvait introduire Israël dans le pays. Cela est vrai, mais il y a plus. Moïse avait parlé légèrement de ses lèvres. Lui et Aaron son frère n'avaient pas glorifié Dieu en présence de l'assemblée. C'est pourquoi l'Éternel leur parla comme nous le voyons en Nombre 20, versets 12 et 23 à 26.
Nombre 20, verset 12, « Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela vous n'introduirez pas cette congrégation dans le pays que je leur donne. » Nombre 20, verset 23 à 26, « Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans la montagne dehors, sur la limite du pays des dons, en disant, « Aaron sera recueilli vers ses peuples, car il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné aux fils d'Israël, parce que vous vous êtes rebellés contre mon commandement aux eaux de Meriba. Prends Aaron et Éléazar son fils, et fais-les monter sur la montagne de Hor, et dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar son fils, et Aaron sera recueilli et mourra là. »
Nous voyons ici les deux chefs de l'assemblée, les mêmes hommes dont Dieu s'était servi pour faire sortir son peuple du pays d'Égypte, avec des signes puissants et des miracles, ce Moïse et cet Aaron, ces hommes grandement honorés de Dieu, à qui l'entrée en Canaan n'est pas accordée. Et pourquoi? Parce que vous vous êtes rebellés contre mon commandement. C'est une chose terrible que d'être rebelle au commandement de Dieu, et plus la position de ceux qui sont rebelles est élevée, plus la chose est grave, plus aussi le jugement divin sera prompt et solennel. Des paroles semblables furent adressées à Saül après qu'il eut refusé d'obéir à la parole de l'Éternel. 1 Samuel 15, 23.
Car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination comme une idolâtrie et des téraphins. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi.
Ainsi, nous avons l'exemple d'un prophète, d'un sacrificateur et d'un roi qui sont jugés sous le gouvernement de Dieu pour un seul acte de désobéissance. Le prophète et le sacrificateur ne purent entrer au pays de Canaan. Le roi fut privé de son trône. Dans notre prétendue sagesse, nous trouvons peut-être ces châtiments bien sévères. Sommes-nous des juges compétents? Prenons garde de nous permettre de juger les dispensations du gouvernement divin. Adam fut chassé du paradis. Aaron fut dépouillé de ses vêtements sacerdotaux. Moïse ne put entrer en Canaan. Saül fut privé de son royaume. Et pourquoi tout cela? Était-ce pour quelque péché scandaleux? Non. Dans chacun de ces cas, c'était pour avoir négligé le commandement de l'Éternel. C'est ce que nous devrions toujours avoir devant nos yeux, dans ces temps de volonté propre où les hommes se permettent d'émettre leurs propres opinions, de penser, de juger et d'agir par eux-mêmes. Ils demandent si chacun n'a pas le droit de penser comme bon lui semble. Nous répondons « certainement pas ». Nous avons le droit d'obéir. D'obéir à quoi? Non pas au commandement des hommes, à l'autorité de la soi-disant Église, au décret des conciles généraux, non pas, en un mot, à aucune autorité purement humaine, mais simplement à la parole du Dieu vivant, au témoignage du Saint-Esprit. C'est là ce qui exige à juste titre notre implicite obéissance. Sans hésiter, sans questionner, nous devons nous incliner et obéir. Un serviteur a-t-il à s'inquiéter des conséquences ou à se préoccuper des résultats? C'est le type d'un bon serviteur de faire ce qu'on lui dit, indépendamment de toute autre considération. Si Adam se fût souvenu de cela, il n'aurait pas été chassé du jardin d'Éden. Si Moïse et Aaron s'en fussent souvenus, ils auraient traversé le Jourdain. Si Saül s'en fût souvenu, il n'aurait pas été privé de son royaume. En descendant le cours de l'histoire humaine, nous voyons cet important principe illustré maintes et maintes fois, et nous pouvons être certains qu'il est d'une importance constante et universelle. L'homme est-il responsable ou non? Voilà la question. S'il l'est, comme nous en sommes certains, alors rien ne peut diminuer cette responsabilité. L'homme est appelé à obéir au simple commandement de Dieu. Il n'est nullement responsable de savoir quoi que ce soit de ses desseins et de ses conseils. La responsabilité de l'homme repose sur ce qui est révélé, et non sur ce qui est caché. Qu'est-ce qu'Adam, par exemple, savait des plans et des desseins de Dieu lorsqu'il fut placé dans le jardin d'Éden et qu'il lui fut défendu de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Sa transgression fut-elle modifiée en quoi que ce soit par le fait merveilleux que Dieu a pris occasion de cette transgression même pour déployer, aux yeux de tous les êtres créés, son glorieux plan de la rédemption par le sang de l'agneau? Évidemment non. Adam avait reçu un simple commandement. Sa conduite aurait dû être entièrement gouvernée par ce commandement. Il désobéit et fut chassé du paradis dans un monde où, depuis près de 6000 ans, ont été manifestés les terribles résultats d'un seul acte de désobéissance. Il est vrai, et Dieu en soit béni, que la grâce est venue dans ce pauvre monde pécheur et y a récolté une moisson qui n'aurait jamais pu être récoltée dans les champs d'une création non coupable. Mais l'homme fut jugé pour sa transgression. Il fut chassé par la main de Dieu en gouvernement. Par une dispensation de ce gouvernement, il a été obligé de manger son pain à la sueur de son front. Ce qu'un homme, n'importe qui, sème, cela aussi il le moissonnera, Galates 6, verset 7. La grâce est une chose, le gouvernement une autre. On ne devrait jamais les confondre, et nous ne saurions trop répéter que le déploiement le plus magnifique de la grâce souveraine de Dieu ne peut jamais empêcher les actes solennels de son gouvernement.